C'est le rendez-vous d'Haïti et des Amériques présenté par Pauline Glaise. Bonjour Pauline.
Bonjour Namori, bonjour à tous. Christina Kirchner, rattrapée par la justice, l'ancienne présidente argentine doit être entendue aujourd'hui par le juge qui instruit l'affaire dite des cahiers de la corruption. Diego Cabot, le journaliste à l'origine de ces révélations, répondra aux questions de Romain Lemaresquier dans un instant. En Haïti, l'économiste Kessner Farrell tire la sonnette d'alarme, la croissance n'est pas au rendez-vous et les investissements publics pas suffisants. On y revient dans la revue de presse de Stéphanie Schuller. Au sommaire également, la manifestation des militants d'extrême droite à Washington. Il n'était qu'une vingtaine à avoir fait le déplacement, bien moins nombreux que les contre-manifestants antiracistes. Pourquoi ? À quoi ressemble l'extrême droite américaine ? On tentera de le comprendre avec notre invitée Nicole Morgan. L'ancienne présidente argentine Cristina Kirchner doit comparaître aujourd'hui en qualité d'inculpée dans une affaire désormais surnommée les cahiers de la corruption. Une affaire qui fait littéralement trembler la classe politique argentine et le secteur de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une affaire de pot de vin lors d'attribution de marchés publics. Ils auraient été versés pendant 10 ans, les 10 années de présidence du couple Kirchner entre 2003 et 2015. Néstor Kirchner étant mort, sa femme va devoir faire face à la justice seule. Alors comment cette nouvelle affaire a-t-elle vu le jour ? Romain Lemaresquier a posé la question à Diego Cabot, le journaliste d'investigation de La Nation, qui a rendu public ses cahiers de la corruption.
Ça fait de nombreuses années que je mène des enquêtes dans le domaine des contrats publics, c'est-à-dire les entreprises qui travaillent dans le secteur des travaux publics. J'ai déjà écrit 3 livres avec un collègue qui est également un ami, donc c'est un sujet que je connais bien. Et au début de l'année, le 8 janvier, j'ai reçu des cahiers d'un chauffeur qui a travaillé pendant 10 ans pour un fonctionnaire qui était chargé de récupérer de l'argent sale, des pots de vin, de ces très grosses entreprises du BTP pour les remettre aux plus hautes sphères du pouvoir. J'ai ensuite travaillé pendant des mois sur ces cahiers et au bout d'un moment, je me suis dit que ces cahiers étaient le compte-rendu le plus réaliste de cette manière illégale d'agir du gouvernement. Et comme les noms de plusieurs entrepreneurs figuraient sur ces pages, je me suis dit que cette affaire devait avoir des conséquences. Du coup, j'ai décidé d'aller parler à un procureur avec qui j'ai travaillé de manière très discrète pendant 3 mois. On a récupéré des preuves afin que le jour où sortirait cette affaire, tout ça soit crédible. Parce que sinon, cela n'aurait fait l'objet que d'un article de presse. Donc on a travaillé avec ce procureur et un juge. Et finalement, lorsque cette affaire a été rendue publique, on avait tellement de preuves que cela a provoqué les repentances de nombreux entrepreneurs et anciens fonctionnaires qui se sont déclarés coupables de délits.
Cette affaire est énorme. Peut-elle conduire l'ancienne présidente Cristina Kirchner en prison ?
Oui, parce que la justice argentine considère ces faits comme de l'association de malfaiteurs. Et après enquête, la justice estime que Cristina Kirchner et son mari Néstor, qui est décédé en 2010, étaient les chefs de cette association de malfaiteurs. Jeudi dernier, pour la première fois dans l'histoire du pays, un fonctionnaire, l'ancien chef de cabinet de Cristina Kirchner, c'est-à-dire la personne la plus importante dans son entourage lorsqu'elle était au pouvoir, a déclaré qu'effectivement des sacs d'argent, des sacs remplis de dollars, arrivait au siège de l'exécutif argentin. Donc oui, cette affaire peut sans doute conduire Cristina Kirchner derrière les barreaux, puisque, comme je le disais, la justice la considère comme la responsable de cette association de malfaiteurs.
Lorsque vous parlez de sommes d'argent, quelles sont les sommes qui ont ainsi transité pendant 10 ans?
Si l'on s'en tient aux notes dans ces cahiers, il s'agit de près de 160 millions de dollars. Mais ça, ce ne sont que les sommes qui apparaissent dans ce schéma de redistribution qui n'est certainement pas le seul. Les entreprises citées dans cette affaire disent que ces sommes ne correspondent pas à la réalité, qu'il s'agit de bien moins. Une manière pour eux de tenter d'esquiver d'autres enquêtes pour blanchiment d'argent. Mais la justice ne les croit pas.
Alors désormais, la justice a entre ses mains toutes les preuves. Elle est en train d'agir, d'interroger toutes les personnes impliquées. Vous, de votre côté, depuis que cette affaire a été rendue publique, est-ce que vous avez été victime de pression?
Non, j'avais déjà anticipé ce qui pouvait se passer quand toute cette histoire a débuté. Comme je vous le disais, j'ai été voir la justice, c'était au mois d'avril dernier, et depuis on a travaillé sur cette affaire. À un moment donné, oui, j'ai j'ai eu un peu peur. Mais pour dire la vérité, si l'on voulait que cela aboutisse, il fallait rester silencieux. Il fallait faire preuve de prudence. Donc, quasiment personne n'était au courant. Deux ou trois personnes dans mon journal, un procureur, un juge et leurs deux collaborateurs. On a travaillé de manière très discrète, ce qui nous a permis, comme je le disais, de récupérer des preuves. À cette époque, il n'y avait aucune pression puisque personne n'était au courant. Depuis que l'affaire a été rendue publique, le procureur m'a prévenu. S'il y a d'autres choses qui sortent, on va se faire tuer. Parce qu'en Argentine, on peut vous tuer pour ce genre de choses. Mais depuis que cette affaire est dans la presse, cela a généré tellement de remous que, pour être honnête, personne ne parle vraiment de moi, si ce n'est qu'à travers des insultes. Ce à quoi je m'attendais d'ailleurs, étant donné la fracture qui existe dans l'opinion publique dès qu'il s'agit de politique. Il y a une partie de l'opinion qui ne répond que par des insultes et quelques menaces. Mais bon, ce sont des choses qu'on avait déjà anticipées.
Diego Cabot, le journaliste à l'origine de l'affaire dite des cahiers de corruption, il répondait à Romain Lemaresquier. Ce scandale à la une de la revue de presse de Stéphanie Schuller également, bonjour.
Bonjour Pauline, bonjour à tous.
Stéphanie, que disent les éditorialistes de cette nouvelle affaire de corruption ?
Eh bien, ils se demandent surtout aujourd'hui si la justice sera capable de faire bien son travail et d'aller jusqu'au bout de ce processus. C'est une semaine cruciale qui s'ouvre, estime le quotidien Crónica, car les cahiers d'Oscar Centeno ont mis à nu les liens entre la corruption dans les entreprises du BTP et l'ancien régime des Kirchner. Ce feuilleton est digne d'un opéra, estime de son côté la Nation, et les Argentins le suivent avec un immense intérêt. Par contre, souligne le journal qui a révélé le scandale, la population fait preuve d'une grande méfiance à l'égard de l'appareil judiciaire. Selon plusieurs sondages concordants, plus que la moitié des Argentins pensent que l'actuelle enquête ne mènera à rien.
Direction Haïti, où les voyants de l'économie sont au rouge, Stéphanie.
Oui, dans une interview avec l'agence haïtienne Alter Press, Kessner Farrell tire la sonnette d'alarme. Le produit intérieur brut prévu à 3,9% en début de l'exercice fiscal est passé à 2% au milieu de l'année, mais pourrait encore perdre 0,5% d'ici la fin de l'exercice, prévient cet économiste réputé. Selon lui, les dernières émeutes du mois de juillet ont eu un impact considérable sur l'économie haïtienne déjà en grande difficulté. Toujours d'après Alter Press, Kessner Farrell dénonce la mauvaise utilisation du trésor public par l'exécutif et le Parlement. Il préfère se donner des privilèges au lieu d'investir en prenant en compte les besoins de la population. En disant cela, l'économiste s'appuie sur des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, Pauline. Sur chaque 100 gourdes dans les caisses de l'État, 70 sont payées par la population. Pourtant, seuls 20,61 milliards de gourdes sont prévus pour les investissements sociaux, alors que 29,94 milliards de gourdes seront dépensés pour les biens et les services de l'État. Cela fait 10 ans, fustige encore Kessner Farrell, que les gouvernements successifs effectuent beaucoup plus de dépenses courantes que d'investissements. Les parlementaires ne sont pas en reste. Leur budget est passé de moins d'un milliard de gourdes avant 2010 à 7 milliards pour l'exercice fiscal actuel.
Et c'est dans ce contexte tendu que le nouveau Premier ministre haïtien désigné, Jean-Henri Séan, mène des discussions pour former un nouveau gouvernement. Il doit, tout comme sa déclaration de politique générale, encore être ratifié par le Parlement.
Et ce sont justement ces tractations qui attirent les foudres du nouvelliste, Pauline. En coulisses, c'est le partage du gâteau, constate amèrement l'éditorialiste. Les parlementaires exigent de l'argent et des postes pour voter la politique générale de Jean-Henri Séan. Ils semblent ignorer les causes qui ont provoqué les émeutes. Ils semblent aussi ignorer comment de telles pratiques salissent l'image du Parlement aux yeux de la population. Négocier des postes et de l'argent pour ratifier la politique générale d'un Premier ministre ne rend pas service au Parlement. Cela ne rend pas non plus service à notre démocratie fragile, conclut le nouvelliste.
À Cuba, Stéphanie, s'ouvre aujourd'hui une consultation populaire sur la proposition de nouvelle constitution.
Oui, le texte a été adopté, comme vous le savez, à l'unanimité par l'Assemblée nationale cubaine en juillet et doit maintenant être débattu dans les écoles, les universités, les entreprises et les quartiers avant d'être soumis au vote lors d'un référendum en février prochain. En tout, 135 000 réunions seront organisées, annonce l'organe officiel Granma, qui souligne que cette démarche n'est pas une simple formalité, mais bien un processus démocratique. Toutes les propositions de la population seront prises en compte pour donner au texte constituant sa version finale, assure le quotidien.
Et cette nouvelle constitution cubaine a attiré l'attention internationale ces dernières semaines, notamment parce que que le texte reconnaît la propriété privée et ouvrira la voie au mariage homosexuel.
Ne vous laissez pas berner, s'exclame pourtant le Miami Herald. Miami où vit et installée une importante communauté de dissidents cubains, en verrouillant encore davantage le système politique cubain, en excluant toute forme d'opposition au régime socialiste qualifié d'irrévocable. Dans le texte, cette nouvelle constitution n'est rien d'autre que la tentative désespérée d'une dictature en déclin qui s'accroche au passé et qui repousse au plus tard la modernisation économique et politique de Cuba, estime le Miami Herald.
C'était la revue de presse de Stéphanie Schuller. Merci Stéphanie. Plus de contre-manifestants que de militants d'extrême droite hier à Washington. Un an après les incidents meurtriers de Charlottesville, le rassemblement des suprémacistes blancs a été très encadré. Ils avaient reçu l'autorisation pour un cortège de 400 personnes. Finalement, seule une vingtaine ont manifesté près de la Maison Blanche contre 300 militants antiracistes. On en parle avec Nicole Morgan, auteure du livre « Haine froide, à quoi pense la droite américaine ?» Bonjour.
Bonjour.
Nicole Morgan, comment expliquer le flop de cette manifestation de l'extrême droite ?
Oh ben, d'abord parce que c'était à Washington. À Charlottesville, il y a eu un petit peu plus de monde parce que Charlottesville, c'est le sud des États-Unis et le Ku Klux Klan est toujours présent. Alors qu'à Washington, là on est dans la capitale et le Ku Klux Klan n'y est plus. Et surtout, je pense que on leur a dit du côté de la Maison Blanche de ne pas trop se montrer. Je sais que M. Trump n'est pas très prudent dans ses déclarations, mais il ne veut pas s'associer au Klan.
Pourtant, Donald Trump, on s'en souvient, l'année dernière, n'avait pas clairement pointé du doigt les manifestants d'extrême droite. Et cette fois, cette année encore, il n'est pas allé aussi loin que sa fille Ivanka dans ses tweets.
Non, mais ce qu'il a fait l'année dernière, c'est que quand après Charlottesville, il a dit « Oh, mais vous savez, il y a des gens très bien des deux côtés ». Et typique de lui, il a dit « Vous savez, la gauche, elle peut être très extrême et très violente aussi ». Il jette toujours la faute sur les autres. Mais là, il fait attention parce que les élections vont être serrées et c'est pas lui qui fait attention, c'est son entourage.
Les élections.
Donc on a essayé, ça a été très très calme à Washington.
Ça a été très calme, pour autant, ça ne veut pas dire que l'extrême droite recule dans le pays.
Oh, pas du tout. Ben, c'est pas la même droite. Hein. Cette extrême droite dont vous me parlez, qui s'appelle l'ultra-right, c'est un ramassis de jeunes gens en colère qui se réunissent plus ou moins sur le web et qui veulent la suprématie blanche. Donc, ils sont anti-quelque chose. Ils sont anti-sémites, ils sont anti-noirs. Et c'est des jeunes gens qui ont peur parce que, effectivement, la seule chose où ils ont raison, les blancs deviennent une minorité, surtout dans le sud, aux États-Unis. Donc, ils essaient de rassembler, ils ont agité, ils ont eu la première l'année dernière, ils étaient tout contents, mais là, ils ne sont rien à côté de la droite fondamentaliste de marché qui est derrière Trump.
Et que veulent exactement ces manifestants ? C'est aussi, ils sont aussi anti-gouvernementaux, d'une certaine manière ?
Non. Non, non, pas eux. Pas eux, justement. C'est pas le même ennemi. C'est pas la croissance économique qui est leur problème. Leur problème, c'est de défendre ce qu'ils pensent être leurs droits. C'est dans leur suprématie qui leur échappe d'ailleurs depuis longtemps. Et c'est dans la conscience collective encore du sud des États-Unis. Les États-Unis au sud n'ont toujours pas pardonné l'abolition de l'esclavage. Et donc Obama, qui était, comme vous le savez, noir en partie, est arrivé à la Maison Blanche. Ça a été pour eux très dur.
On parlait de Donald Trump tout à l'heure. Comment a évolué cette mouvance d'extrême droite depuis son arrivée à la Maison Blanche ?
Ben, il fait ce qu'il a dit qu'il faisait. Je l'avais dit, ça allait être une catastrophe. Il détruit toutes les institutions publiques qu'il peut, puisque le but de Donald Trump, c'est ce que j'appelle le fondamentalisme de marché, c'est de remplacer toutes les institutions publiques par les institutions privées, de privatiser les joyaux de la couronne, et il coupe, et puis là, il s'en donne à cœur joie, et plus il coupe, plus il est applaudi par une bande de supporters qui ont été radicalisés, c'est le mot d'ailleurs depuis 20 ans, par les radios talk shows, par la Fox News, et par les romans d'Anne Rand, par une idée, pas une idéologie, mais par une radicalisation. Ça a été, il fallait écouter ces radios talk shows ou voir la Fox pour s'apercevoir du degré de haine et de discours qu'on a fait à 100 millions. Il y avait quand même 100 millions de gens qui regardent, d'Américains qui regardent ou qui écoutent, hein, et c'est beaucoup, quand on pense qu'il y a à peu près 250 millions qui votent, et qui n'ont rien d'autre pour se référer. Et c'est sans arrêt, vous les Américains, nous sommes exceptionnels, le gouvernement est un voleur, les journalistes sont des menteurs, et c'est eux et vous et nous, et c'est répété sans arrêt. Merci. Et avec un crescendo, j'ai remarqué ces 5 dernières années, surtout quand Obama est revenu, est arrivé au pouvoir.
Merci Nicole Morgan, je rappelle que vous êtes l'auteur de Haine froide, à quoi pense la droite américaine. Tout de suite, le journal de l'Outre-mer.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec La Première Caraïbe. Bonjour Maxime Bossonnet.
Bonjour Pauline.
Maxime, en Guadeloupe, plusieurs services du CHU de Pointe-à-Pitre vont être délocalisés à l'hôpital de Basse-Terre, dans le sud de l'archipel.
Et oui, le CHU de la Guadeloupe a décidé temporairement de transférer les soins aux grossesses pathologiques au centre hospitalier de la Basse-Terre, le CHBT. Depuis un incendie qui a ravagé le CHU à Pointe-à-Pitre en novembre 2017, les équipes sont sous tension et les syndicats sont mobilisés. Les explications de Chantal Horn.
Pour l'UTS UGTG, on assiste à une forme de régression. Avant, il y avait un vrai service de gynécologie prenant en charge toutes les affections touchant les femmes et un service de maternité pour les grossesses. L'ARS a demandé la fermeture d'un service. Sur 20 lits, la maternité en a perdu 5. 4 autres ont été répartis en chirurgie viscérale et orthopédique. C'est donc un vrai service de gynécologie qui a disparu. Des médecins n'ayant pas d'affectation définie et pas de reconnaissance de leur qualification ont fini par quitter la Guadeloupe.
Les maires aussi sont sous pression. Déjà, des maires ont volontairement démissionné ces derniers mois. La faute à la baisse des dotations et à la suppression de la taxe d'habitation. Et en Guadeloupe, donc, on craint également des départs. On écoute Jean-Claude Pioche, maire de la Désirade et président des maires de Guadeloupe.
Les maires de Guadeloupe sont engagés dans leur mission. Nos financements se réduisent, s'amenuisent de jour en jour. Bien sûr, je comprends que dans l'Hexagone, qu'il y ait des maires qui démissionnent. Vous savez, je dis toujours, être maire, c'est pas un travail, c'est un engagement au quotidien. Et un maire travaille peut-être sans compter, je dirais même 24 heures sur 24, tout au long de sa mandature, pour pouvoir être au service de la population. Alors oui, je peux comprendre que des maires, des fois, en ont peut-être un peu ras la casquette parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent pas soulager leur population parce que il faut c'est un coût financier, parce que il faut des moyens, et des moyens souvent qu'ils n'ont pas.
Jean-Claude Pioche, interrogé par Guadeloupe La Première. On part en Guyane maintenant. Un nouveau collectif a été créé pour continuer les actions menées par le mouvement Pour la Guyane décollée. Souvenez-vous, ce groupe était mobilisé en mars-avril 2017. Il demandait un plan d'urgence pour la Guyane. Ce mouvement social avait paralysé le territoire pendant près d'un mois. Et aujourd'hui, un nouveau collectif se met en place. Les explications de Kylian Saïbou.
Les anciens membres du collectif Pour la Guyane décollée reviennent sous les feux de la rampe encore plus déterminés, comme indique le nom de leur nouveau collectif, Noupé Kemoli. Yolène Yekpong, membre du collectif.
Nous avons décidé de continuer le travail en montrant de manière un peu plus affirmée notre détermination. Noupé Kemoli, donc nous ne fléchirons pas et nous ne fléchissons pas.
Dans une continuité des actions engagées par l'ancien collectif, les membres du NPKM disent revendiquer cette fois de manière résolue le droit à la transparence concernant le suivi des accords de Guyane, acté le 21 avril 2017.
Et c'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous.
Merci, bonne journée à vous, Maxime Bossonnet.